Au XXIe siècle, il devient de plus en plus difficile de croire à l'existence de communautés coupées du monde avec qui personne n'entre jamais en contact. Dans des coins aussi reculés que les forêts amazoniennes, peut-être, mais dans un pays peuplé par plus de 125 millions d'habitants, il semble peu probable de parvenir à rester caché. Et pourtant, au Japon, une rumeur circule depuis plusieurs années sur l'existence d'un village dont l'accès est si bien dissimulé qu'il faut vraiment le chercher pour le trouver. Mais avant de relever le défi et de vous lancer dans cette expédition, laissez-moi vous mettre en garde. Il vaut peut-être mieux pour vous que ce lieu reste une énigme. Il y a des secrets qui ne valent pas vraiment la peine d'être dévoilés. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Le village d'Inunaki, dont le nom se traduit par « village du chien hurlant », se trouve dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, aux alentours de la ville de Miyawaka, sur l'île de Kyushu. Il ne figure sur aucune carte, et même une fois dans la région, ne comptez ni sur la signalisation, ni sur l'office du tourisme pour vous donner plus de détails. Son emplacement exact est un mystère. Selon les légendes et les faits rapportés par celles et ceux qui auraient réussi à y mettre les pieds, et surtout à en revenir, il se trouverait au cœur de la forêt locale et ne serait accessible que via un tunnel dissimulé dans la végétation, aujourd'hui condamné. La raison de cet isolement n'a pas d'origine sordide. Il s'agirait, à la base, d'une contestation politique. Les habitants du village auraient décidé de se couper du pays pour protester contre la Constitution du Japon, une loi fondamentale mise en place en 1947. Ainsi, une pancarte aurait été placée à l'entrée du village, indiquant que la Constitution du Japon n'est pas en vigueur ici. Mais comment cet isolement, basé sur des convictions politiques, s'est-il transformé en légende urbaine terrifiante ? Tout commence dans les années 70, lorsqu'un couple en route vers la ville d'Isayama, de l'autre côté de la montagne, tombe en panne à proximité du tunnel d'Inunaki. Lorsque leur voiture s'arrête, l'homme sort d'abord du véhicule pour l'inspecter et tenter de trouver l'origine de la panne, mais doit bien vite se rendre à l'évidence. Il n'a ni les connaissances ni les outils pour les sortir lui-même de la panade. Il invite donc sa femme à rassembler ses affaires et à le suivre. Il remarque un petit chemin qui mène vers la forêt et se disent naturellement qu'il doit bien mener quelque part et qu'ils trouveront sans doute de l'aide au bout. Il marche quelques minutes sans rien trouver, jusqu'au moment où il tombe sur un panneau, sur lequel est peint le message « La Constitution du Japon n'est pas en vigueur ici ». Il continue d'avancer, mais le chemin se fait de plus en plus étroit et ardu. Les arbres semblent se rapprocher d'eux, leurs branches s'accrochent à leurs vêtements. Le couple se sent presque menacé par la nature environnante. Mais au bout du chemin, comme il l'espérait, un village apparaît. Il s'aperçoit vite qu'il n'a rien de la petite bourgade chaleureuse qu'il s'attendait à trouver, en revanche. Au contraire, l'ambiance est au point mort, un peu comme leur voiture. Les rues sont vides, aucune lumière n'est visible depuis les fenêtres, et il ne distingue aucun mouvement dans les maisons. Il n'y a pas un bruit. Le village a l'air complètement abandonné. Collés l'un à l'autre, ils regardent autour d'eux, cherchant désespérément quelque chose pouvant les rassurer. Mais plus ils avancent, moins ils se sentent en sécurité. L'atmosphère oppressante semble s'immiscer dans leur cage thoracique pour comprimer leurs poumons. Ils finissent par renoncer à l'idée de trouver de l'aide dans cet étrange hameau et font demi-tour, hâtant le pas pour quitter cet endroit au plus vite. Mais au détour d'une ruelle, alors qu'ils atteignent enfin la route principale menant vers la sortie du village, ils aperçoivent un homme. Il se tient debout, au milieu de la rue. Lorsqu'ils les remarquent, ils lèvent les bras en l'air dans un geste qui se veut accueillant et enjoué et leur crient « Bienvenue au village d'Inunaki !» Et bien qu'ils se trouvent à environ 30 mètres du couple, il apparaît soudain à leur côté en quelques enjambées. Une fois à leur hauteur, l'homme poursuit et leur dit « On adore recevoir des visiteurs au village, mais on a toujours peur qu'ils s'en aillent. » Son sourire se fige, quelques instants, mais le couple n'a pas le temps de répondre. L'homme dégaine une faucille qui était attachée à sa ceinture, et d'un geste aussi rapide que brutal, il tranche la gorge de l'homme, dont les yeux s'écarquillent quelques instants avant de se fermer pour toujours. Sa femme pousse un hurlement et se met immédiatement à courir en direction de la sortie du village. Mais l'homme la rattrape, la jette à terre et l'envoie rejoindre son mari dans l'au-delà. La petite voiture noire du couple est tout ce qui reste de leur passage. Il paraît qu'elle est toujours là, rouillée et couverte de mousse et de végétation, comme un panneau de signalisation indiquant la proximité du village. Mais qu'en est-il de ce fameux tunnel alors ? Comment une telle infrastructure peut exister et rester cachée ? Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Le tunnel a été construit au début du XXe siècle et de nombreux ouvriers y ont trouvé la mort. Après son ouverture en 1949, de nombreuses personnes l'ayant traversé en voiture ont assuré avoir entendu des cris sur leur passage, ressemblant à ceux de plusieurs hommes à l'agonie. Pire encore, certains usagers ont entendu des hurlements d'enfants et vu des empreintes de petites mains apparaître sur les fenêtres de leur véhicule. Le tunnel a été fermé et abandonné après la construction d'un nouveau passage en 1975, mais un crime sordide survenu quelques années plus tard a poussé le gouvernement japonais à le condamner une bonne fois pour toutes. En décembre 1988, 5 lycéens abordent un homme arrêté à un feu rouge au volant de son véhicule. Ils lui ordonnent d'en sortir, indiquant qu'ils ont besoin de la voiture pour aller rejoindre des filles. Bien qu'il le menace violemment, l'homme refuse de descendre et les garçons se ruent sur lui et le rouent de coups. Le pauvre homme tente de s'échapper, mais ses agresseurs le rattrapent, le jettent dans le coffre de son propre véhicule, le frappent encore et encore et encore, puis grimpent à bord pour l'entraîner dans un coin isolé, dans le but de se débarrasser de son corps. Ils décident de le laisser dans le tunnel condamné, convaincus que personne ne le retrouvera jamais. Mais pour s'assurer qu'il soit encore plus difficile à identifier, ils l'arrosent d'essence et mettent le feu au pauvre homme, dont les cris d'agonie résonnent dans le passage souterrain. Une fois certains qu'il ne respire plus, les lycéens prennent la fuite à bord de sa voiture. Mais ils se vantent tellement bruyamment de leurs exploits que leur crime est bientôt découvert. Peu de temps après leur sinistre assassinat, ils sont arrêtés, jugés et condamnés à la prison à vie. Mais en 2000, un cadavre est découvert dans les alentours, près d'un barrage, permettant à la légende d'Inunaki de faire son entrée dans le XXIe siècle. Bien qu'on n'en sache pas beaucoup plus sur l'identité de la pauvre personne dont le corps a été retrouvé, son existence a suffi à souffler sur les braises de la légende pour en raviver les flammes et la propager au-delà de la région. Et bien que les deux entrées du tunnel soient aujourd'hui scellées, ça n'empêche pas les petits curieux et les amateurs de frissons de s'aventurer aux alentours pour tenter de trouver le village ou au moins l'un de ses mystérieux habitants. De nombreuses théories circulent sur la véritable raison qui aurait poussé les villageois à se couper du reste du monde, en dehors de l'aspect politique. Certains disent qu'un mystérieux virus s'est répandu et a forcé la population à se mettre en quarantaine, et que, depuis, les habitants ne sont plus tout à fait les mêmes. Si la majorité a survécu à l'épidémie, personne ne semble s'en être sorti sans séquelles. Les générations suivantes ressembleraient, paraît-il, plus à une espèce mutante qu'à des êtres humains. D'autres racontent que les villageois se sont retrouvés forcés de prendre des mesures drastiques pour assurer leur survie, sans briser la règle de leur isolement, et qu'ils se sont tournés progressivement vers le cannibalisme par pure nécessité. Sauf que, pour éviter de décimer complètement la population, ils ont fini par trouver un compromis. Chaque personne trop curieuse ou trop bête pour s'aventurer sur leur territoire servirait à nourrir le village. Comme ça, déjà, tout le monde mange, c'est super, et en plus, il n'y a personne pour aller balancer leurs secrets et leur localisation au reste du monde. C'est gagnant-gagnant, sauf pour celui qui finit en méchoui. Ça expliquerait en partie pourquoi personne ne semble revenir de ce village après l'avoir trouvé, et pourquoi on n'arrive toujours pas à mettre la main sur un témoin crédible. S'ils finissent tous entre les quenottes des villageois, c'est sûr que ça devient tout de suite plus compliqué de raconter leur version des faits. Une autre rumeur, qui se rapproche de la première anecdote, raconte qu'un des habitants du village est devenu complètement fou et a massacré toute la population à coups de hache, ou de faucilles, selon les versions. À moins qu'il ait gardé une personne de côté pour prendre sa suite après sa mort, mes calculs semblent indiquer qu'il devrait être décédé depuis. Mais allez savoir. Si ça se trouve, il fait des heures sup depuis l'au-delà, ce qui doit le rendre encore plus difficile à fuir et à vaincre. Mais attention, trouver le chemin du village et y entrer par vos propres moyens n'est pas la seule façon d'y pénétrer. Chaque nuit, un piège est tendu au bord de la route qui mène au tunnel. Si vous la longez, vous tomberez sur une cabine téléphonique qui a l'air complètement abandonnée et clairement plus en fonction. Pourtant, toutes les nuits, à 2h du matin, la sonnerie stridente du téléphone retentit. Et si on a le malheur de décrocher, il paraît que l'entrée du village apparaît comme par magie de l'autre côté de la route. Vous allez peut-être me dire « Oui, c'est pas parce que l'entrée apparaît qu'on est obligé de s'y rendre, peut-être qu'on veut juste voir à quoi ça ressemble. » Oui, mais non, parce que la rumeur dit que toute personne répondant à cet appel perd ensuite le contrôle de son corps et se retrouve physiquement forcée d'aller dans le village. Après, si on répond au téléphone dans une cabine abandonnée au milieu de la route près d'un village supposément hanté et ou maudit, moi je dis « On mérite absolument tout ce qui nous arrive par la suite. » Même l'origine du nom du village est sordide. Parce qu'il ne s'appelle pas « Village du chien hurlant » pour rien. L'origine du nom viendrait de l'histoire tragique d'un homme qui, lassé d'entendre son chien hurler toute la nuit, fit l'erreur de le tuer dans un accès de rage. C'est déjà assez dramatique comme ça, comme histoire, mais le lendemain matin, lorsque l'homme et sa famille sont retrouvés massacrés, tout fait sens. Le chien essayait désespérément de l'alerter du danger tapis dans l'obscurité depuis des heures, alors que le tueur attendait patiemment que tout le monde s'endorme pour commettre son méfait. Moralité, faites confiance à vos animaux. Oh, et les tuez pas. Je sais, ça tombe sous le sens, mais dans le doute, je préfère faire un petit rappel amical. Et si vous voulez vous faire encore plus peur avec cette histoire de tunnel et de village maudit, je vous conseille de jeter un œil au film Inunaki, le village oublié, réalisé par Takashi Shimizu, à qui on doit notamment Ju-on et son remake américain The Grudge. Pensez bien à regarder tout ça dans le noir, de préférence autour de minuit. Si vous êtes seul chez vous, c'est encore mieux. Et pour la facture de votre thérapie, envoyez-la aux habitants d'Inunaki, tiens. Je suis sûre qu'elle sera bien reçue. Moi, je fais que transmettre les infos. J'y suis pour rien dans tout ça. Je ne suis que votre humble messagère des ténèbres. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.